Donc, nous n'y reviendrons pas. Deuxièmement, parce que nous allons improviser plus ou moins, avec un tout petit peu de préparation, une sorte de dialogue entre nous. Et troisièmement, parce que nous n'avons pas de modérateur et donc c'est chacun d'entre nous qui va occuper cette fonction. Je ne sais pas s'il est utile que nous nous présentions, mais on peut le faire rapidement. Et je crois, donc moi, Frédéric Pélion, je suis AME de l'EPFL, voilà, et enseignant au Collège de clinique psychanalytique de Paris, en plus de mes autres fonctions, de mes fonctions hospitalières, bon, qui n'interviennent pas ici. Et puis, je crois que c'est Natacha qui commence notre dialogue, donc peut-être si tu veux bien te présenter
Oui.
avant de commencer.
Alors, Natacha Vellut, donc je suis psychanalyste à Paris et membre de l'école. Donc, effectivement, on a préparé un dialogue lu, un peu, quand même, donc assez préparé, hein, puisqu'il est lu. Et je démarre, donc, sous notre titre commun qui est Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Alors, lire Lacan, en particulier télévision, c'est tenter de jouer d'un accordéon au clavier polyphonique à la richesse rythmique et mélodique qui se déploie ou se referme comme les soufflets de l'instrument. Le paragraphe qui nous occupe ce soir démarre par une allusion à Rome, siège de l'Église catholique, centre de la chrétienté. Tous les chemins y mènent, comme tous les chemins mèneront là où Lacan va dire. En d'autres termes, il n'y a pas d'origine du psychanalyste, il y a une place finale du psychanalyste. Lacan situe objectivement et subjectivement le psychanalyste d'être un saint, objectivement comme il l'énonce lui-même dans ce texte, et subjectivement puisqu'à la fin de ce paragraphe, à la page 520 des autres écrits, il confie comme une boutade ou comme une interrogation que lui-même n'y atteint peut-être pas d'être un saint. Du moins ce qui dans le passé s'est appelé saint. Un saint n'impose pas le respect. Ce n'est effectivement pas durant sa vie qu'il est reconnu saint. Personne ne le remarque. D'ailleurs, comment le distinguer? Car comment le distinguer? D'autant qu'il pourrait suivre le conseil de Balthazar Gracian et ne pas faire d'éclat. Explorons cette dialectique entre remarquer, ne pas remarquer, reconnaître. Ne pas reconnaître, être reconnu ou pas, faire des éclats, ne pas faire d'éclats. Quelques années après la mort de Balthazar Gracian, Molière, en 1669, fait jouer sa pièce Tartuffe au théâtre du Palais-Royal, pièce aussitôt censurée. Cette première version de la pièce, Molière l'avait sous-titrée L'hypocrite, Tartuffe ou l'hypocrite. Pour contrer la censure, il changera le titre en Tartuffe ou l'imposteur et y ajouta deux actes, une histoire d'amour contrariée par Tartuffe et une intervention du roi qui permet que tout se termine au mieux dans le meilleur des mondes. L'hypocrisie sera démasquée, l'amour sanctifié, la propriété privée restituée, bref, un happy end. Si la pièce de Molière est censurée, c'est qu'elle met en scène la ressemblance entre le vice et la vertu. C'est-à-dire qu'elle met en scène le problème d'un croyant insincère. Dans la première version de la pièce, Molière tourne en dérision la fonction du directeur de conscience. C'est Tartuffe. Dans la seconde, Tartuffe sera plutôt une sorte d'escroc sous le masque d'un homme dévot. La pièce est autant une attaque de l'hypocrisie, du mensonge, de la fausse dévotion, qu'un faux dévouement à Dieu, une satire de la certaine dévotion sous les traits du personnage d'Orgon, le maître de maison, qui n'est qu'aveuglement et faiblesse, qui n'est que soumission à un directeur de conscience, qui est habité par la passion de l'ignorance. Tartuffe, lors de l'acte 3, scène 2, dit à Dorine, la suivante de Marianne, fille du maître de maison, dans la scène dite du mouchoir, ce mouchoir qui servira à cacher, à voiler, il lui dit « Ah mon Dieu, je vous en prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Avec Tartuffe, l'objet est remarqué, il produit des éclats. Tartuffe le voit et refusant de le voir, il attire l'attention de tout le public. L'objet est connu et nommé, comme dans les actes de charité d'ailleurs. L'Évangile préconise ainsi de nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, vêtir les démunis, soigner les malades, visiter les prisonniers, enterrer les morts. Bref, assortir chacun à son objet et le monde tournera divinement. Magie du théâtre et de sa double énonciation, le public ne voit pas seulement l'objet, il voit Tartuffe comme un Tartuffe. Avant que Tartuffe n'entre en scène, en fait Tartuffe il entre en scène uniquement à l'acte 3, le public le connaît déjà. Il sait déjà que c'est un Tartuffe. Il sait déjà sa tartufferie. Il est donc dans une situation où il est incapable de duper. Il apparaît moins méchant et machiavélique que ridicule et dupé par la mise en scène elle-même, avant d'être lui-même dupé par Elmire, la femme du maître de maison. Il avance masqué, mais le public sait qu'il l'est masqué. Et à force d'insister sur les apparences et la nécessité du secret, il met en abîme la question de la représentation de la vérité. Avec Tartuffe, nous sommes questionnés sur la feinte, le leurre, la tromperie, le mirage, l'escroquerie, autant de termes que Lacan emploie à propos de la psychanalyse. Qu'est-ce qui, dans la mise en scène du dispositif analytique, permet de se faire dupe? Qu'est-ce qui permet de distinguer l'analyste d'un Tartuffe? De distinguer simuler et dissimuler, c'est-à-dire distinguer mentir et ne pas dire toute la vérité. Balthazar Gracián, jésuite espagnol du XVIIe siècle, a écrit plusieurs ouvrages, dont en 1647, excusez de mon accent déplorable en langue étrangère, un Oraculo Manuel y Arte de Prudencia, que nous pourrions traduire mot à mot par Oracle Manuel.
Et je me demande d'ailleurs, mais peut-être quelqu'un qui est bien hispanophone pourrait nous confirmer. Manuel, ça donne l'idée d'une portativité, je crois. C'est un petit livre qu'on peut emmener avec soi. Enfin bon.
Mettre dans sa poche. Ça serait dans sa poche. Ouais, c'est Oraculo ça. Manuel. I arte de prudentia, donc, et art de la prudence. Mais qui a été traduit par son éditeur français de l'époque, Amélo de la Housset, donc il l'a traduit en 1684, il l'a traduit L'homme de cour. C'est le titre qu'il a donné à l'ouvrage, et c'est le titre que reprend Lacan dans Télévision. Le livre rencontre un grand succès et donne lieu à plusieurs rééditions. Il est composé de maximes, 300 maximes, que Gracián commente, jouant sur la rhétorique, jouant sur les mots, tordant et retordant les mots. Dans le choix traductif d'Amélo de la Housset, qui dit donc l'homme de cour, se lit que l'homme d'église était aussi à l'époque un homme de cour, ou que les deux étaient partis liés. Balthazar Gracián lui-même était le confesseur du vice-roi d'Aragon, un Italien du nom de Francesco Maria Carafa. Gracián n'est donc pas un saint, mais un confesseur, fonction que depuis la naissance de la psychanalyse, on ne confond pas avec le psychanalyste. Lacan ne propose d'ailleurs pas une comparaison de l'analyste avec un homme d'église, ni le confesseur, ni le prêtre. Donc, il ne confond pas le psychanalyste avec l'homme du sacerdoce, mais avec le saint. Entre saint et sacerdoce se glisse une division qui fait d'ailleurs le lit de la pièce de Molière. Impossible de confondre Tartuffe avec un saint. Il essaye et il rate à se faire passer pour un saint. Dès l'acte 1, scène 1, donc bien avant que Tartuffe rentre en scène, Dorine l'énonce, il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Le public est prévenu. Dans la maxime qui clôt l'homme de cour, donc c'est la maxime 300, la dernière, Gracian donne sa définition du saint. Cette maxime, elle est intitulée Enfin être saint. D'ailleurs, je note que ce n'est pas tout à fait pareil que de dire être un saint, hein. Donc, Gracian, c'est enfin être saint. Voilà ce qu'il en dit. C'est dire tout en un seul mot. La vertu est la chaîne de toutes les perfections et le centre de toute la félicité. Elle rend l'homme prudent, attentif, avisé, sage, vaillant, retenu, intègre, heureux, plausible, véritable et héros en tout. 3 S le font heureux, la santé, la sagesse, la sainteté. La vertu est le soleil du petit monde et a la bonne conscience pour hémisphère. Elle est si belle qu'elle gagne la faveur du ciel et de la terre. Il n'y a rien d'aimable qu'elle, ni de haïssable que le vice. La vertu est une chose tout à bon, tout le reste n'est que moquerie. La capacité et la grandeur se doivent mesurer sur la vertu et non pas sur la fortune. La vertu n'a besoin que d'elle-même. Elle rend l'homme aimable durant sa vie et mémorable après sa mort. Donc vous avez une idée du style de Gracian. Peut-être que le signifiant qui importe dans cette liste, quand même, dans cette longue liste de qualités et de vertus, hein, parce qu'il est prudent, attentif, avisé, sage, enfin, etc. Peut-être que le signifiant qui importe est le signifiant plausible qui se glisse dans cette liste et qui d'ailleurs est suivi tout de suite après de véritable. Donc l'homme saint, il est plausible et véritable. Avec les ouvrages antérieurs, ces ouvrages antérieurs qui précèdent l'homme de cour, le héros en 1637, le discret, alors El Discreto en espagnol, mais ça a été traduit par le traducteur par l'homme universel en 1646, avec cette trilogie. L'homme de cour propose une sorte de construction du moi dans une image idéale, de l'homme passant pour saint, doué des qualités nécessaires pour une réussite dans la société qui ne pouvait se passer d'une réussite mondaine à l'époque. Balthazar Gracian, peut-être que c'est toujours pareil maintenant, Balthazar Gracian conseille de faire et faire paraître. C'est d'ailleurs le titre d'une de ses maximes, qui dit bien en son intitulé Faire et faire paraître qu'il s'agit de réhabiliter les formes et les apparences. À une époque de guerre de religion entre catholiques et protestants, dans l'actualité brûlante des haines confessionnelles entre jésuites et jansénistes, Gracian se range du côté des formes et des apparences, du côté du discours stylisé, de la rhétorique. Balthazar Gracian, c'est un style, celui du baroque espagnol et celui de l'exaltation des formes, ici des formes écrites. On saisit ce qui a retenu Lacan. De la dissimulation à la Tartuffe, qui ne dissimule rien, on passe à la simulation qui s'appuie sur des formes, des images, des apparences, qui montrent sans montrer, qui suggèrent, qui voilent sans dévoiler. Il ne s'agit pas de vouloir tromper à la Tartuffe, il s'agit de laisser croire, ce qui est bien différent. Une autre maxime de Balthazar Gracian est titrée Ce n'est pas être fou que de faire une folie, mais bien de ne la savoir pas cacher. Il ne faut certes pas mentir, mais il ne faut pas dire toute la vérité. Nuance. Évidemment, cela fait écho au début de télévision et Lacan qui dit « Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. » La vérité, Gracian en offre une saisissante représentation dans son dernier ouvrage, El Criticon, traduit lui aussi de façon inventive par l'homme détrompé. Alors, dans le Criticon, à partir de l'adage latin Veritas odium parit, la vérité accouche de la haine, Gracian propose une fiction. Il creuse le langage pour faire surgir une autre face du réel. Voici la scène. Une rumeur enfle. la vérité va engendrer un fils. C'est une scène d'apocalypse. Ce fils qui ne pourra être que terrifiant, féroce, abominable. Alors tout le monde fuit. Cet accouchement pourrait naître non un fils, mais deux, la haine et le désenchantement. Et puis d'autres vérités accoucheront et proliféreront, car qu'est-ce qui peut retenir la parole conçue? Cette fiction gracienne met en valeur une horreur de savoir, une peur qui ferait déguerpir, une envie de fuite qui pourrait aussi bien saisir le futur analysant. Nul doute que ce talent à presser le langage, à le découper, je pense à découper parce que cet adage latin « veritas odium parit » est en fait le découpage d'un texte plus ancien. C'est la coupure d'un vers de Terence qui disait « obsequius amicos veritas odium parit » La flatterie engendre les amis, la vérité la haine. Donc déjà, il faut découper ce vers pour en faire pour produire cette fiction de Graciane. Donc, nul doute que ce talent avec le langage à le découper, à le faire accoucher d'une vérité, ne pouvait qu'intéresser Lacan. L'usage et l'éloge du semblant produisent un parallèle fécond entre l'homme de cour imaginé par le jésuite et l'analyste pensé par Lacan. En témoigne une autre maxime, savoir-faire l'ignorant, une autre maxime de l'homme de cour. Quelquefois, le plus habile homme joue ce personnage et il y a des occasions où le meilleur savoir consiste à feindre de ne pas savoir. Il ne faut pas ignorer, mais bien en faire semblant. Il importe peu d'être habile avec les sots et prudent avec les fous. Il faut parler à chacun selon son caractère. L'ignorant n'est pas celui qui le fait, mais celui qui se laisse attraper, qui s'y laisse attraper. C'est celui qui l'est et non pas celui qui le contrefait. L'unique moyen de se faire aimer est de revêtir la peau du plus simple des animaux. Graciane semble écrire avant le leur, la ruse du sujet supposé savoir, ce savoir-faire qui permet le transfert, qui conditionne la croyance à l'inconscient. La croyance condition de l'analyse se soutient d'une habileté dans le maniement des semblants. Par ailleurs, chez Lacan, comme chez Graciane, se lit un goût pour les oxymores. Un saint qui décharite est un mélange des contraires. C'est une contradiction apparente, ces contradictions dont Balthazar Graciane, comme Lacan, se délecte. Décharité, c'est réunir dans un même mot déchet et charité. Charité qui était une des trois vertus théologales. Balthazar Graciane écrit, lui, de Venise, dans son Criticon, donc son dernier ouvrage, que c'est un lieu de splendeur et de déchéance. Et il décrit la mort comme un visage de Janus, le visage de fleur des honneurs, de la renommée, et le visage fané de la mort hideuse et cruelle.
Si nous avons bien suivi Natacha, le parallèle que propose Lacan entre l'analyste et le saint, le parallèle objectif, il convoque donc tout ce théâtre d'ombre, d'ambiguïté qu'elle nous a fait apparaître, qu'elle nous a déplié. Alors, puisqu'on est dans les ambiguïtés, je voudrais que maintenant on s'arrête quelques minutes sur celle que recèle ce mot « abjection ». Cela à cause de la phrase dans laquelle, à mon avis, culmine le passage incriminé ce soir, et dans laquelle il me semble que le parallèle entre l'analyste et le saint donc cesse d'être un parallèle purement euclidien, si je puis dire. Je vous remets en mémoire la phrase, c'est de l'abjection de cette cause que le sujet en question a chance de se repérer au moins dans la structure. Et là, Lacan parle de l'analyste, enfin passe à l'analyste, tout en ayant auparavant parlé du sein. Alors, abjection. Ce terme charrie au chapitre de ses signifiés un certain nombre d'images. Je pourrais en énumérer trois types. Il y a l'image de l'ermite, un retranché volontaire du monde, mais dont on sait bien que l'exposition à l'acédie montre que cette soustraction, ce retranchement volontaire du monde, ne le protège pas parfaitement des tentations qui lui en parviennent tout de même du monde, même au travers du désert. Deuxième type d'image, celle du stigmatisé qui donne à voir aux incrédules un corps, pour ainsi dire, surnaturel. Et à propos de ce thème et ce corps, il y a l'heureuse coïncidence que vous avez peut-être aperçue, puisque ce soir paraît aux éditions de notre école les trois essais sur la sexualité mystique de Michel Bousséroù, qui justement traite de ce thème. Et puis enfin, troisième groupe d'images, si je puis dire, celle du martyr. Martyr sacrifié à un dieu doublement obscur, de réunir sur son nom l'autorité du dit premier, d'une part, et de l'autre, cette aspiration à la mort, je cite Lacan, dont Lacan a reçu l'interrogation de Freud. Lacan l'a reçu pour la repenser en termes de répétition nécessaire de la rencontre manquée, certes, mais sans pour autant croire possible d'en couvrir complètement le scandale.
Avec l'abjection.
On peut lire sur ce thème le petit texte noté par Catherine Millot sous le titre « Désir de mort, rêve et réveil ». Hein. Voilà. Natacha, qu'est-ce que tu disais?
J'allais prendre la suite sur l'abjection.
Ah, oui,
l'abjection. Avec l'abjection, Lacan vise un point de réel dans la place qu'occupe l'analyste lors d'une psychanalyse. Dans le discours à l'école freudienne de Paris, Lacan souligne la place d'où, enfin il parle du point d'où, le psychanalyste est cause du désir. Je le cite. « Être de la merde, c'est vraiment ce qu'il, » là il parle du psychanalyste, « veut dès qu'il fait l'homme de paille du sujet supposé savoir. » Arrêtons-nous sur l'homme de paille. Un prête-nom, l'occasion d'un opéra bouffe de Feydeau ou d'une pièce de théâtre de la Biche, la paille qui renvoie aussi au Sicut Palea de saint Thomas d'Aquin. Une paille comme déchet, une paille comme fonction pour atteindre quelque chose qui ne peut pas dire son nom. L'homme de paille, c'est celui qui prête son nom pour l'escroquerie d'un autre. L'homme de paille, dans un sens vieilli, c'est un homme de rien.
En somme, il semble que Lacan soumette le saint, la figure du saint, ces figures multiples, à la même critique que bien d'autres notions. Cette critique, elle est nommée par lui, dans le séminaire RSI par exemple, réduction de l'imaginaire. De sorte qu'avec ce petit paragraphe, c'est ce qu'il pose, de tous les avatars historiques de la sainteté, de la collection quasiment indéfinie de ces personnifications, il ne conserve au fond qu'une fonction, celle de, il me semble, de la dissymétrie.
La dissymétrie qu'on peut entendre comme s'opposant à la charité. La charité, mais elle met tous les humains dans l'ensemble des prochains. La charité, c'est l'amour de l'autre, mais non comme autre, non comme dissymétrique, mais comme prochain, comme autre prochain, comme une figure sans cesse renouvelée de Dieu et du même Dieu.
Alors, il nous a semblé enfin, que c'est cette dissymétrie que Lacan désigne comme abjection. Et d'ailleurs, ce faisant, la désignant ainsi, cette dissymétrie, il retrouve derrière le latin plutôt fleuri de Cicéron et l'emphase des pères de l'Église où abjection, c'est l'action d'abaisser, de mépriser tout ce qui mène à l'humilité. Tout ça, il retrouve l'étymologie littérale d'abjection qui est de rejeter au loin. Et donc, avec cette étymologie, le sens séparatif qui reste attaché à la préposition « ab ». C'est pourquoi il me semble qu'il écrit 2 années plus tard encore que ce à quoi a affaire l'analyste est, je cite, autre chose que le prochain. Il s'agit bien d'autre chose dans cette dissymétrie.
Cette abjection donc, que supporte le saint comme l'analyste expliquerait selon Lacan bien des étrangetés des faits de saint. On va prendre par exemple un exemple connu, Saint François d'Assise et sa dénudation. La scène se passe en 1206. François, fils d'un marchand drapier d'Assise, est alors âgé de 25 ans, 24 ou 25 ans. Je ne suis pas sûre que les textes ne se contredisent pas sur ce point. Depuis quelque temps déjà, il a renoncé en son fort intérieur à sa destinée d'héritier. Son père, furieux de le voir dilapider son bien en œuvre de charité, donc en fait, il donne les biens de son père pour faire la charité, a décidé de le traduire devant le tribunal de l'évêque pour obtenir un renoncement solennel à l'héritage familial. Sitôt devant l'évêque Guido, François, non content de se plier à l'injonction paternelle, manifeste de façon spectaculaire sa renonciation en se dénudant complètement, rendant ainsi à son père jusqu'à ses vêtements pour ne plus rien lui devoir. Le geste saisit l'assemblée, notamment l'évêque qui, subjugué, enveloppe François nu dans son manteau avant de lui faire remettre la chemise d'un paysan qui se trouvait là. Et ainsi, pauvrement vêtu, François entame sur le champ sa nouvelle vie d'ermite itinérant. C'est l'effet de surprise garanti, un effet de réveil. Et sans que cela soit prévisible ou anticipable, une façon de montrer, de démontrer jusqu'où la cause mène le sujet, une façon d'être par le paraître. L'habit est l'abject, l'habit devient aussi dans son rejet un message. La dénudation, qui est un acte du sujet plutôt qu'une simple nudité, dit la conversion de saint François d'Assise, dit la mutation du sujet. Quand Lacan note que le saint reste Makash, il suggère que de supporter cette place de cause, le saint ne peut en jouir. La jouissance du transfert est pour l'analysant, pas pour l'analyste, là où le transfert est pour l'analysant une forme de jouir sans entrave de sa jouissance en deux mots. Cette jouissance que Lacan aborde dans Télévision un peu plus haut, que le passage qui nous occupe ce soir. Cette jouissance sans entrave du jouissance, sans entrave, car l'analyste n'est ni un confesseur, ni un directeur de conscience.
Mais il me semble que le rasoir de cette dissymétrie passe aussi entre savoir et vérité. On l'a un tout petit peu effleuré avec l'ignorant et le saint de Gratian. Cet effet a quelques conséquences sensibles, au nombre desquelles on peut ranger les passions qui s'ordonnent autour du saint, au sujet du saint, ou tout au moins à son propos. Passion dont la geste de Socrate, quoique ce soit une geste athée, fournit un premier échantillon. Voilà. Relire le Phédon, par exemple, où s'ordonne tout ce que toute une série de passions que cause l'impavidité de Socrate devant sa mort prochaine. Parmi ces passions, celle de l'ignorance n'est sans doute pas la moins répandue. Ce n'est pas forcément la plus visible. Le saint subit de l'amour, de la haine, mais c'est peut-être aussi l'ignorance qui l'alimente le plus. Cette ignorance, c'est celle précisément, il me semble, de la disparité de la position de chacun. Et sur ce point, Lacan est assez formel, il me semble. Cette ignorance n'est pas le fait du saint lui-même, mais de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui s'ordonne autour de lui, de toutes ses vies de saints qui le montent en exemple et qui l'offrent en partage.
Orgon, le vrai dévot de la pièce de Molière, en est une comique illustration. Il ne veut rien savoir de ce qui l'anime et s'en remet à son directeur de conscience qui s'empresse de le conforter dans cette passion de l'ignorance.
En somme, le saint démontre qu'il en va de l'exemplarité un peu comme de l'identification. L'une comme l'autre procède dans le meilleur cas de l'unaire, dans le moins bon de l'union. À l'opposé, l'antipathie du saint à l'ignorance, quoiqu'elle ne garantisse aucun savoir, laisse une chance à l'énigme de chacun de se dire.
Le saint sait par expérience, non par le biais d'un savoir, surtout pas d'un savoir établi. Le saint rompt avec le discours de son époque. Colette Solaire le note dans un texte qu'elle avait intitulé « Le saint et le capitalisme ». Je la cite, « Le saint, c'est celui d'un désir ardent, singulier et contagieux qui conduisait en marge de toute voie canonique, d'où il n'est saint, c'est-à-dire canonisé, qu'après sa mort. »
De sorte que si Lacan peut dire du saint quelques lignes plus bas dans le passage qui nous occupe, s'il peut dire du saint qu'il est rebut de la jouissance, c'est en tant que lui, le saint, ne se laisse pas ordonner ce qui en lui le dépasse, et qui à l'occasion, mais pas nécessairement, peut être supporté par une figure de Dieu. Il ne laisse pas ordonner ce qui le dépasse par un discours au sens collectiviste que Lacan réserve à ce terme. De ce point de vue, le saint demeure seul de ce qu'il mise sur un petit tas étranger à toute spécularisation, comme à toute spéculation, l'une comme l'autre, spécularisation et spéculation, n'étant au fond que la reprise de la symétrie de départ par les discours de la réciprocité, de l'utilité, de l'échange, etc. Je note à ce propos que Lacan, il semble suggérer que le saint est préparé de longue date à cette position qui deviendra la sienne. C'est en tout cas comme cela que je comprends la phrase à la fin de notre passage, puisque se foutre de la justice distributive, c'est de là que souvent il est parti. Il est parti, il n'est pas arrivé. Voir l'exemple de saint François, opportunément rappelé par Natacha à l'instant, mais la question c'est qu'il en va peut-être de même de l'analyste.
Il est effectivement peut-être pas question de justice distributive pour l'analyste, et pour au moins trois raisons. Comme analysant, ce que l'analyste a été, a toujours été, même s'il pourrait ne plus l'être. Il vient au discours analytique avec une demande et non une offre. Il ne se préoccupe pas de justice ou de distribution. C'est sa question, la sienne en propre, toujours singulière, qui le fera entrer dans le discours analytique. La demande est intransitive. L'analyse en demande, il demande la guérison, comme le suppose le journaliste de télévision. Et si l'analyste répondait à cette demande, il instituerait un circuit de l'échange. Ni le saint, ni l'analyste ne travaillent au nom d'un service des objets perdus et ou trouvés, ni au nom d'un service des biens. Deuxième raison, l'objet cause du désir, cet objet qu'on ne peut voir.
De la même manière qu'on ne sait pas reconnaître un saint à coup sûr. Hein.
Voilà, l'objet qu'on ne peut voir, ni nommer, ni localiser, ne peut se confondre avec un objet de l'échange, avec un objet du marché. Il n'est pas distributif, il est hors valeur, hors justice. Les vrais biens, alors ça c'est pour parler comme Balthazar Gracian, par exemple la vertu, ne se distribue pas, ne se disent pas.
Et enfin, troisième raison hein, de cette exclusion de l'analyste ou du saint de la justice distributive, c'est que le saint vise une jouissance qui paraît autre, si ce n'est toute, d'être en elle-même exclue de la justice distributive. Là, ça peut aussi vous renvoyer à un article plus ancien de Michel Bousséroux qui s'appelle « Hétérologie de l'abject », qui est dans l'enjeu lacanien numéro 5 de 2005.
Et toujours un peu dans ce fil de justice distributive, dans le séminaire Le Transfert, Lacan s'amusait de cette contradiction « le saint est riche ». Je le cite. Il fait bien tout ce qu'il peut pour avoir l'air pauvre, c'est vrai, tout au moins sous plus d'un climat, mais c'est justement en ceci qu'il est un riche et particulièrement crasseux parmi les autres, car ce n'est pas une richesse, la sienne, dont on se débarrasse facilement. Le saint se déplace tout entier dans le domaine de l'avoir. Le saint renonce peut-être à quelques petites choses, mais c'est pour posséder tout. Si vous regardez de bien près la vie des saints, vous verrez qu'il ne peut aimer Dieu que comme un nom de sa jouissance. Et sa jouissance, au dernier terme, est toujours assez monstrueuse, dans le séminaire Le Transfert. Dans Télévision, Lacan reprend cette caractéristique pour lui-même. À le dire crûment, vous savez que j'ai réponse à tout, moyennant quoi vous me prêtez la question. Vous vous fiez au proverbe qu'on ne prête qu'aux riches. Avec raison, qui ne sait que c'est des discours analytiques que j'ai fait fortune. Mario Binasco, alors dans le même numéro d'enjeu lacanien que l'article de Bousséroux que Frédéric vient de citer, Mario Binasco donc avait écrit un texte qui s'appelait « Petite variation sur le thème du saint » dans lequel il proposait de ce passage de télévision et de ce passage du transfert sur le saint riche, il en proposait la lecture suivante. Cette fois, il revendique même sa richesse, donc Lacan, mais sous deux formes différentes. On ne prête qu'au riche, et donc on lui prête sa question. Le riche est donc riche du crédit dont le transfert l'investit, ce qui est essentiel pour que l'analyse puisse se faire. Mais de ce crédit, l'analyse ne jouit pas à proprement parler. De la fortune faite en accumulant le plus de jouir qui se détache de la transformation du manque en valeur, oui, on peut jouir, mais en cessant à ce moment-là d'opérer en tant que saint analyste. La pauvreté du saint, de l'analyste, est au niveau de sa jouissance. Ce n'est pas la question qu'il l'est ou pas. Et si elle s'appelle Dieu, on ne voit pas bien en quoi il l'aurait davantage. La question est qu'il soit un rebut de la jouissance, qu'il sache être un rebut. À ce prix, la richesse ne l'encombre plus, elle n'empêche plus son opération à l'analyste. Pour finir notre dialogue et avant vos questions, On note une dernière rencontre fructueuse entre Gracian et Lacan. L'homme universel comporte cette formule, donc c'est un des ouvrages de Gracian, comporte cette formule en espagnol, las verdades que más nos importan vienen siempre a medio decir. Les vérités qui nous importent le plus viennent toujours à moitié dire, sont toujours mi-dites. Est-ce ici que Lacan pioche son mi-dire? Il semble que Lacan, nourri de cette lecture, entre autres, substitue à la dialectique philosophique classique entre apparence et âme, ou entre apparence et essence, qui situe Aristote plutôt du côté de l'apparence et Platon, Saint-Augustin plutôt du côté de l'essence, que Lacan va substituer à cette paire dialectique la paire semblant-discours et objet-abject. Et l'analyse se trouve au croisement du semblant et de l'objet, puisqu'en position de semblant d'objet A. Dans le séminaire « L'envers de la psychanalyse », Lacan note que c'est à l'analyste et seulement à lui que s'adresse cette formule que j'ai si souvent commentée du « Wo es war, soll ich werden ». C'est là où j'étais que je dois venir. Si l'analyste essaye d'occuper cette place en haut à gauche qui détermine son discours, c'est justement de n'être absolument pas là pour lui-même. C'est là où c'était le plus de jouir, le jouir de l'autre, que moi, en tant que je profère l'acte analytique, je dois venir.
Et voilà où nous nous arrêtons.
Bon, pour vous laisser la parole.
C'est à vous de continuer maintenant.
Alors, je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Je ne vois pas de mains qui se lèvent pour l'instant. Ce qu'on peut peut-être vous dire, en plus de ce dialogue lu, pour le temps que vous prépariez des questions, c'est qu'on a eu, Frédéric et moi, une difficulté sur les mêmes lignes qui sont restées pour nous, finalement, énigmatiques. Ces trois lignes à la page 520 des autres écrits. Ces trois lignes, c'est
parfois. Pourtant, oui, a-t-il un relais, hein. Voilà, deux lignes et demie, hein, mais qui restent absolument résistantes, en tout cas pour nous.
Qui nous résistent.
Parfois, pourtant, a-t-il un relais dont il ne se contente pas plus que tout le monde? Point, il jouit, point, il ne perd plus pendant ce temps-là. Donc, en fait, nous n'avons pas élucidé une difficulté sur l'articulation des deux phrases et finalement le sens à donner à l'expression « pourtant a-t-il un relais hein ?» Puisque ça fait suite hein, immédiatement pour ceux qui n'ont pas absolument le texte sous les yeux. Le saint est le rebut de la jouissance. Parfois, pourtant, a-t-il un relais? Voilà.
Alors, on a trois mains qui se sont levées.
Moi, je vois Radu, Turcanu, Karim Barkati et Marc Strauss, je crois que dans l'ordre. Enfin, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais ordre d'apparition. Radu, peut-être?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous m'entendez?
Ah, oui. Bien.
Merci, merci à tous les deux. Je dois vous avouer que je vous ai trouvé tous les deux spectaculaires. Enfin, c'était une proposition du conseil de direction en fonction de faire ce type de séminaire et de dialogue. Et je crois que pour moi, c'est une très belle expérience. C'est vrai que peut-être il ne faut pas le faire à chaque fois, mais votre dialogue et votre façon de présenter les choses, voilà, c'est une petite innovation. Ma question, c'est très simple. Enfin, qu'est-ce qui fait le saint et qu'est-ce qui fait l'analyste? Est-ce que au-delà des connivences, des choses en commun, est-ce qu'on peut dire aussi ce qui distingue l'un et l'autre? Voilà.
Donc ta question porte sur le point où le parallèle n'est pas euclidien.
Exactement.
Le saint, il n'est jamais tout seul quand même. On a buté tous les deux sur cette histoire de relais en se demandant c'est quoi le relais du saint, c'est quoi le relais d'analyste. On a un peu buté là-dessus, mais oui, le saint, il a quand même une adresse à un autre, à l'autre, à un grand autre. Donc ça les distingue.
Alors moi, j'aurais envie de dire, pour répondre à la question de Radu, d'essayer d'y répondre, j'aurais envie de dire, mais ça j'espère que ça ne va pas faire un scandale, que ce qui ce qui différencie l'analyse du saint, c'est que l'analyste, il sait ce qu'il fait. Il ne sait pas quel effet il va produire, mais il y a un point où il sait ce qu'il fait. Ce qui n'est probablement pas le cas du saint.
C'est-à-dire, c'est vrai que Graciane, il a, dans l'homme de cour qui se termine par être saint, il a tout un jeu sur l'apparence d'être saint. C'est quelque chose sur la plausibilité du saint. Donc déjà, il n'est pas saint hein, lui-même. Enfin, oui, il parle d'autre chose.
On pourrait singer Michel Houellebecq.
La possibilité du Nil.
Ce qui est un exploit quand même, mais en parlant de la possibilité du saint chez Graciane. Parce que, voilà.
Ça, c'est très joliment dit, hein, la possibilité du saint.
Karim.
Oui, après. Est-ce que vous m'entendez?
Assez oui. Bien, assez bien.
Bon. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une forme différente, le dialogue. Mes questions sont plutôt dans le chapitre de l'abjection que vous avez traité et qui est là, par contre, pas dans la distinction entre le saint et l'analyste, mais plutôt sur les points de recoupement. Frédéric, vous présentez trois guises de l'abjection en quelque sorte, avec l'ermite, le stigmatisé, le martyr. Je ne sais pas duquel vous rapprocheriez le saint et duquel vous rapprocheriez l'analyste, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quelque chose d'un peu contemporain, à la suite du dénudement de saint François d'Assise. C'est sur cette question du réveil et de est-ce que l'analyse doit se dénuder, et par rapport à la question contemporaine et du saint, c'est vrai qu'il y a les fémènes qui font ça bien.
J'ai cru comprendre qu'elles ne se dénudaient qu'en partie, les fémènes, non?
Mais justement, justement.
Tu ne regardes pas YouTube, Frédéric.
C'est marrant parce que figurez-vous.
Mais c'est un effet de réveil en dénudant le sein. Bref.
Figurez-vous qu'il y a des querelles d'experts pour savoir si Saint François s'était dénudé complètement ou pas. Ou s'il avait gardé un
quelque chose.
Il y a des querelles pour savoir.
Cache sexe ou pas.
Exactement. Pour savoir s'il était complètement dénudé ou pas. Ce qui est intéressant, enfin, je te laisse après la parole, Frédéric, sur les guises de l'abjection, mais ce qui est intéressant avec saint François, c'est aussi l'idée que dans cette scène, l'être et le paraître se conjoignent. Il y a quelque chose de ça dans la scène qui est très intéressante. Et je ne crois pas que l'analyste doit se dénuder C'est pas ça, mais peut-être que dans l'acte, quand même, l'analyste, peut-être qu'il joue un peu son va-tout comme le fait saint François d'Assise. C'est-à-dire, il y a quelque chose, quand même, je sais pas, quelque chose qui peut le dénuder au sens, non pas du vêtement, de l'habit, hein, pas dans ce sens-là, mais quelque
Non,
chose
mais
où le semblant touche à quelque chose de réel. Enfin, c'est ça qui me vient.
c'est tout à fait limpide que enfin, ça là-dessus, l'acte, ce qu'on a, enfin, ce que Lacan essaye de saisir comme l'acte analytique, ça sort de toute posture assignable, il me semble. Bon. Oui, pour répondre à la question enfin, à la suggestion de Karine Barkati, en fait, l'ermite, le stigmatisé et le martyr, c'est une sorte d'herbier des possibilités de saint, quoi, vous voyez? L'idée que j'essayais de faire valoir, c'était plutôt que Lacan se défait de toutes ces images pour parler de la structure de l'abjection et en tant que facteur de dissymétrie. Point. Quels que soient encore une fois, l'habillage que celui-ci prend.
Alors après, Karim, c'est Marc Strauss.
Oui, merci et bonsoir à tous. Et
Bonsoir,
merci.
Marc.
Bonsoir, Frédéric. Merci particulièrement aux deux intervenants de ce soir qui nous ont offert une remarquable, un moment de télévision, une remarquable visite guidée dans le texte de Lacan. Alors, j'ai une question. Une fois de plus, je ne sais pas si elle est pertinente. J'entre pas dans la remarque de Frédéric, l'analyste, c'est ce qu'il fait. Je suis encore sous l'effet du souffle de la bombe. Je suis soufflé. Donc, je n'en dis rien. Mais, donc, ma question à propos de l'analyste, sachant être un rebut, pour l'analysant ou pour lui-même? En tout
Ah.
cas, pour ce qui est du foutage de la justice distributive, ça, c'est clair que Lacan, ce n'était pas Saint François.
Il était
Très cher.
pas
Et
très
il s'abîme
dédié, c'est ça
de
qui
façon remarquable.
Oui, je voulais juste dire un petit truc, je ne sais pas si c'est intéressant, hein. Après je te laisse la parole, Frédéric. Sur saint François, parce que saint François, il fait la charité avec les biens qui ne sont pas les siens. Il fait la charité avec les biens de son père. Donc, déjà, c'est une façon de faire la charité qui est particulière, mais je pensais au passage, ça me faisait penser au passage où Lacan cite un autre saint, c'est saint Martin, je ne sais plus, qui donne la moitié de son manteau, c'est ça?
Martin, normalement,
Saint
oui.
Martin. Et après, je me suis dit, mais quand même, faire la charité quand on est pauvre, alors il ne peut même pas donner un manteau, il ne donne que la moitié du manteau. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas vraiment charitable en même temps dans la charité, puisqu'ils font vœu de pauvreté, donc ils donnent quoi en fait? Enfin, ils n'ont pas non plus de bien. Enfin, il y avait quelque chose qui m'interrogeait sur cette charité finalement. Voilà, bon, ben, c'était juste un petit aparté.
Oui, Marc, où es-tu? Qu'est-ce que tu...
Rebut pour l'analysant ou pour lui-même.
Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de te répondre. C'est pour
La jouissance.
rebut de la jouissance, moi je l'entends, parce que c'est assez compliqué, parce qu'il y a plusieurs occurrences de la jouissance dans le petit passage incriminé. Hein. Et au fond, la jouissance, moi j'ai l'idée que c'est celle de personne, mais c'est celle qui est ordonnée par le discours courant. Donc, à cet égard, le saint est le rebut de la jouissance du discours ambiant. Et ça laisse entière la question, qui est d'ailleurs qui tourmente Lacan aussi, de celle de ce qu'il en est de sa propre jouissance à lui le saint. Et ça peut être pris évidemment au sens subjectif où il est déporté par la jouissance ambiante. Hein, mais ça, c'est tout. Là, c'est la figure du martyr, encore une fois. Mais il me semble que c'est dans une objectivation d'une jouissance ordonnée par le discours dont l'analyste lui-même est le rebut, qu'il s'agit quand il dit rebut de la jouissance. Enfin voilà, je propose ça, mais...
Écoutez, d'abord, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et cette façon de le dire, parce que c'est un dialogue, c'est un effet de discours. Vos questions s'entendent très bien, elles circulent de l'un à l'autre et ça fait, je vous assure, un effet de division absolument, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Voilà. Et petit commentaire. C'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est tout à fait différent de la formule de un exposé puis un autre exposé et ensuite on discute les deux. Je vous fais une confidence, j'ai jamais aimé ça. Parce que je trouve que quand on discute deux exposés groupés, on attrape beaucoup moins le point d'énonciation. Et là, les deux points d'énonciation s'entendaient alternativement. Donc moi, je suis très enthousiaste. Premier point. Deuxième point, et d'ailleurs je souhaiterais que ça se poursuive, parce que ça, c'est beaucoup plus, enfin moi je trouve ça beaucoup mieux. Bon, ce que vous avez très bien fait passer l'un et l'autre donc, et ça je trouve ça aussi très très bien, parce que c'est difficile, hein, et moi j'ai appris des choses que je n'avais pas lues comme ça, c'est quels sont les points par lesquels Lacan a été touché effectivement dans ce qu'il écrit, hein, et des points absolument clé, c'est-à-dire à partir de la lecture de Graciane, tout ce que vous avez dit, comment on entend la racine du semblant, la vérité médite, l'horreur de savoir, le rebut de la jouissance. Ça fait beaucoup de choses. Et là, moi j'ai très bien perçu là où Lacan a pu être touché par ces points-là. Et je voudrais terminer, parce que c'est un point très important, sur la discussion qui s'engage sur le savoir être un rebut. Alors, moi, je dirais deux choses par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'il me semble, je commence par celle de Frédéric, parce que c'est le plus récent, après je repasserai à Marc. Moi, je ne pense pas que ce soit la jouissance de personne. Moi, il me semble que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans télévision, Lacan prend bien l'expression « se met-il à faire le déchet ?» Hein, à propos du saint, mais ce qui vaut pour l'analyste aussi. Et que, après, il parle de l'abjection. Moi, ce que je note, c'est que ce terme d'abjection, le savoir être un rebut, c'est quelque chose qu'il a tout à fait élaboré dans la proposition de 67 à propos de la fin de cure. Hein. Et que, il me semble que le moment où l'analyste se fait le savoir être un rebut, c'est le moment où il se laisse décompléter, réduire, je veux dire, au rebut, au moment où l'analysant, je veux dire, est divisé par l'objet A, au moment où l'objet A le divise, et donc l'analyste cesse d'être le semblant de l'objet A pour l'analyste. Alors, ce point-là touche, il me semble, comme c'est l'analyste qui dirige la cure, je veux dire, qui conduit la cure, dans ce moment-là, il n'y a qu'un sujet dans la cure. Donc, il s'agit du rapport à la jouissance de l'analysant. Mais c'est vrai qu'on peut poser la question de ce qu'il en est de l'analyste qui a incarné le semblant de l'objet. Je ne pense pas qu'il jouisse plus à cet endroit-là.
Ouais.
Mais le rebut de la jouissance se distribue, je dirais, du côté analysant et du côté analyste, comme il dit dans la proposition, tout comme l'acte d'ailleurs se distribue à un moment donné. Dernier truc, et j'arrête, je ne veux pas être trop loin. En tout cas, pour moi, il y a un écart entre le savoir être un rebut et toute connotation de martyr ou de, je ne sais plus ce que vous avez dit,
Oui,
il y a un écart complet. Hein. Alors, quant à Marc, qu'est-ce qu'il a dit, Marc? Il a dit, oui, qu'est-ce qui concernait? Moi, il me semble que c'est le moment de structure du désêtre. Savoir être un rebut, ça touche le désêtre de l'analyste au moment où l'analysant est désubjectivé par l'objet. Bon, proposition.
Peut-être je ferai juste une remarque pour compléter, c'est qu'il y a, il y a deux expressions qu'il faut peut-être pas accoler, c'est rebut de la jouissance d'un côté et savoir être un rebut de l'autre.
Exactement.
Et donc, attention.
Exactement. Il faut distinguer les deux. Voilà.
C'est deux expressions distinctes. Quoi, exactement. Disons. Peut-être seul apparitio qui est là.
Et je me joins aux remerciements répétés. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la série Tartuffe Graciane Saint-François d'Assise. J'ai beaucoup de questions en fait, parce que j'ai beaucoup apprécié votre exposé qui jette des lumières sur le texte, mais ça ne veut pas dire pour autant que les questions s'éteignent. Un point de l'exposé de Frédéric sur lequel je voudrais un éclaircissement. Tu as évoqué l'ignorance à un moment donné, et si j'ai bien entendu, tu as dit que le saint suscite l'ignorance chez l'autre.
Mm-hmm.
J'aimerais que tu déploies un petit peu ce point. Hein. Sinon, j'ai une question à vous poser concernant la façon dont vous avez saisi ce que Lacan dit à propos du saint juste avant de se référer à Graciane. Et justement, je vous lis ces trois lignes avant qu'il ne cite Amelot de Laoucée. Il dit « Un saint, durant sa vie, n'impose pas le respect qui lui vaut parfois une auréole. Personne ne le remarque. » Quand il suit la voie de Balthasar Graciane, celle de ne pas faire d'éclat. Alors, moi j'ai lu ça, j'ai lu dans ces lignes que Lacan laisse entendre qu'il prend Graciane pour un saint, qu'il met le Graciane à la place d'un saint. Et ce que j'ai trouvé très étonnant quand je l'ai lu, et à la fois très cohérent avec ce que je crois saisir dans ce passage. Hein? Donc voilà, je vous apporte ça et je vous pose une question là-dessus, sur ce point de lecture. Je termine sur le passage qui vous a fait problème. Moi, je ne le trouve pas si problématique que ça, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais le mot de relais, effectivement... est un peu, on peut se demander, mais l'ensemble du passage me paraît plutôt clair. Le saint cesse d'être un saint au moment où il jouit.
Oui, non, ça, ça va.
Oui.
Pardon, Sol. Pardon, Natacha. Je bondis, excusez-moi.
Oui, mais...
Ça, ça va. Mais l'articulation entre les deux moitiés de la moitié de paragraphe, nous a semblé problématique. Quoi. L'articulation entre « pourtant, parfois, a-t-il un relais dont il ne se contente pas plus que tout le monde ?» Ça, c'est une chose. Et puis, dans le même paragraphe, juste après, « il jouit, il ne perd plus pendant ce temps-là. » c'est la symphyse entre les deux considérations qui est aussi un problème pour nous, en tout cas.
Ça va avec la ligne qui précède.
Ouais.
Le saint,
ça ne nous a pas paru clair du tout, justement. C'est là, c'est trois lignes ensemble. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il jouit quand il a un relais. C'est à ce moment-là.
Il est le rebut de la jouissance. Bon. À un certain moment, il cesse d'être rebut de la jouissance et il jouit. Pendant ce temps-là, il n'en perd plus.
D'accord. Mais le relais, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'affaire?
Le relais, effectivement, on peut se demander pourquoi Lacan emploie le mot relais, mais
voilà.
Ça indique un moment de passage, de sortie de la position de rebut.
Ah.
D'autre chose.
En fait, on sait.
Le relais, c'est qu'il repasse dans la position commune.
C'est ça. Ah, le relais de discours, alors.
Oui.
D'accord.
Ben, regardez ce qui est écrit en haut. Ça épate ceux qui s'en approchent et ne s'y trompent pas. Le saint, le rebut de la jouissance, ça les épate. Et parfois, il a un relais, c'est-à-dire que parfois, au lieu d'être
abjection,
il repasse de l'autre côté du discours et alors il jouit, comme tout le monde, et ce n'est pas satisfaisant quand même.
Mm-hmm. Donc, c'est en termes de discours, peut-être, oui. En fait, on a un peu dérivé et on s'est dit quand même il y avait un truc intéressant, c'était sur ça rejoint un sol, hein, c'était sur le fait qu'on le remarque, on le remarque pas, il fait pas d'éclat, le saint, alors que justement, bon, si on prend saint François d'Assise, il a une scène de son entrée dans la vie de saint qui est quand même spectaculaire, hein, qui d'ailleurs donne lieu à des représentations picturales.
Il n'a pas su qu'il faisait son entrée dans la vie de saint sur le moment.
Non.
C'est nous qui le disons maintenant.
Oui, c'est nous, c'est pas lui, c'est vrai. Mmh. Mais on le remarque.
Lacan a dit le bruit ne convient pas au nom du psychanalyste.
Oui, parce que là, là, il y a quelque chose avec le saint, oui, qui est un peu étonnant. C'est-à-dire que Graciane, il fait du saint quelqu'un qui se dissimule. Il ne fait pas du saint quelqu'un qui est à la Saint-François d'Assise. Ce n'est pas quelqu'un, justement, qui fait une action d'éclat. Donc, en fait, il parle du saint et tout de suite, il part sur Graciane, c'est-à-dire quelque chose du jeu, du semblant, de l'apparence, de la...
Mais la question, dans ce texte, la question, ce n'est pas tellement ce que dit Graciane du saint. C'est que, comme le dit Sol, Lacan dit que lui considère que Graciane est un saint.
Voilà.
Hein, c'est ce que dit la phrase. Personne ne le remarque, un saint n'impose pas le respect, personne ne le remarque quand il suit la voie de Balthazar Graciane. C'est-à-dire la voie du saint.
Ça s'interprète, hein, parce que la voie de Balthazar Graciane, c'est Balthazar Graciane, il a écrit un livre.
Mais je sais ce qu'a écrit Balthazar.
Oui,
mais je lis le texte de Lacan.
Oui, ben, moi je pense que ça peut s'interpréter de deux façons. Là.
Disons que ça laisse entendre qu'il me semble.
Alors ça
ben, la voix de Balthazar Graciane, est-ce que c'est la voix de son écrit ou en fait tout son écrit tend à être saint? C'est quand même la dernière maxime, c'est être saint. Donc tout son écrit, c'est des conseils. C'est des conseils pour arriver à être saint. Donc, est-ce que c'est la voix de son écrit ou la voix de sa vie? Mais alors là,
ce que dit, ce qu'écrit Lacan, pardonne-moi Natacha, celle de ne pas faire d'éclat.
Ouais.
Mais oui, c'est ce qu'il dit.
On peut le prendre comme étant dans sa vie ou dans ses écrits, peu importe. Selon Lacan, c'est celle de ne pas faire d'éclat.
Oui, donc, c'est.
Personne ne le remarque quand il suit la voix de Graciane, celle de ne pas faire d'éclat. Personne ne remarque quoi? Ce que Lacan écrit à la phrase précédente. Un saint, durant sa vie, n'impose pas le respect que lui vaut parfois une auréole. Personne ne le remarque, ce saint.
Oui, et oui, c'est pour ça que c'est vrai que c'est une phrase.
Graciane n'est pas un saint. Hein. Il y a que Lacan.
Mais non, ce n'est pas un saint. Non.
Il y a que Lacan.
Non, c'était un directeur de conscience, c'était un jésuite. Donc. Non, c'était pas un saint, mais n'empêche, oui, mais n'empêche qu'il visait quelque chose de la sainteté et qu'il le visait pas en faisant des éclats, puisque toute sa rhétorique, l'homme discret, l'art de la prudence, etc., c'est justement une rhétorique de la prudence, de la discrétion. C'est pas du tout de faire des éclats, pas du tout ce qu'il. D'ailleurs. Il y a autre chose d'ailleurs pour Graciane, bon, je ne sais pas, c'est un petit détail, mais il n'écrivait pas sous son nom non plus. Balthazar Gracian. Il utilisait un autre nom. Il utilisait le nom d'un de ses frères parce qu'il n'avait pas le droit d'écrire en tant que jésuite. Donc, il écrivait sous un autre nom. Encore, alors, il faisait encore moins d'éclat. Il écrivait sous le nom d'un autre. Et son frère avait une position sociale moins visible que lui. Donc, c'est vrai que du saint, il fait quelque chose, Lacan, dans ce texte. Moi, c'est vrai que ça m'a tout de suite arrêté, cette idée de « on ne le remarque pas ». Alors que quand on pense au saint, alors évidemment à saint François d'Assise, il y a des actions d'éclat dans la vie des saints. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est pris à l'envers.
Il y a deux phrases là. Il y a « durant sa vie, on ne le remarque pas, mais… » Il y a des étrangetés des faits des saints. Donc, il y a les deux. Hein.
Oui, c'est vrai.
On ne le remarque pas, mais il y a des étrangetés que l'on remarque, forcément. Oui. Et comme ils sont saints que beaucoup plus tard, on peut rapprocher les deux.
C'est vrai que c'est après coup hein, qu'ils sont canonisés.
L'auréole vient plus tard.
Oui, ça vient après.
Alors, moi, je voudrais dire différentes choses. J'ai bien apprécié aussi votre dialogue, hein, bien sûr. Différents points un peu dans le désordre. Je trouve que vous avez un peu passé vite sur la charité. Un peu vite. Donc, je voudrais insister un peu. C'est que la charité, la justice distributive, ça se tient. Hein? On fait la charité à tous, à tous ses semblables. Autrement dit, on est déjà dans la justice distributive. Et ce qui me semble intéressant, pour nous aujourd'hui, puisqu'on n'est quand même pas au siècle de Balthazar Gracian, c'est de voir à quel point l'idéal chrétien de charité a infiltré tout le discours et qu'il y a une laïcisation de la charité maintenant. Et ce serait intéressant de la pister dans ces différents lieux. Par exemple, un grand lieu de conversion ou de laïcisation de la charité, ça a été l'idéal communiste, à chacun selon ses besoins. On ne peut pas être plus dans la justice distributive qu'avec cette formule qui est l'idéal même du communisme, disons. Donc, ce serait intéressant quand même, pourquoi ce serait intéressant de pister les aspects masqués de la charité, ben c'est parce que Lacan nous dit que l'analyste, il décharite.
Oui.
Hein? Donc, si on veut tirer quelques enseignements pour nous-mêmes de cette formule de Lacan, c'est bien de voir où elle va se loger, la charité. Bon, là-dessus, bon, première remarque. Deuxième point sur le... Savoir-être un rebut, c'est une expression que Lacan n'utilise que dans la lettre aux Italiens. Et ça s'applique à l'analysant à la fin, quand il est arrivé à la fin. Hein. Et c'est un double sens, en fait. Ça veut dire, il sait qu'il l'est, le rebut, il le sait, bon, il faudrait, ça s'explique facilement, enfin oui, ça s'explique très bien même. Mais du coup, il y a une ambiguïté du mot savoir. Il sait qu'il l'est et il sait le faire.
C'est ça.
Il sait être un rebus et il sait le faire. Donc, c'est le passage entre l'acquis épistémique, au fond, savoir qu'il est un rebus, c'est un acquis épistémique, et savoir l'être, c'est un acquis qui rend possible, au fond, l'acte à venir.
C'est un peu comme l'expression « se faire à l'être ».
Oui. Alors, je voudrais évoquer, puisqu'on parle de la voix de Balthazar Gracian, Lacan a toujours tous les textes sur le saint, peut-être pas les textes où il parlait que... Il y a des textes où il disait tout à fait autre chose sur le saint, bien antérieur. Mais à partir d'un certain moment... Tous les textes sur le saint évoquent la voix, V-O-I-E. Et je voulais quand même évoquer un grand texte sur le saint qui se trouve dans la conférence sur Joyce. Mm-hmm. Et où il y a deux phrases, enfin, c'est tout un paragraphe, je souligne que deux phrases. Il dit, il n'y a pas de saint en soi, il y a, voilà comme il définit le saint, le désir de fignoler la voie canonique. Le désir de fignoler la voie canonique. Ce qui effectivement indique, comme tu le disais, Natacha, que le saint n'est jamais seul. Le saint, il appartient à une église d'abord. Il appartient à une église qui a un dogme et une voie canonique. Et finalement, Lacan nous dit, voilà, le désir du saint, c'est pas de sortir de la voie canonique, mais de la fignoler. Alors c'est assez intéressant parce que par rapport, si on applique ça à la psychanalyse, on voit très bien comment ça correspond au fond à ce qu'on peut dire du désir de l'analyste, c'est une expression générale, puis chacun fignole la façon de le soutenir en quelque sorte. Bon. Donc fignoler la voie canonique, et il dit à la fin, pour la seule chose commune au saint, c'est la scabostration, c'est-à-dire que la castration de l'escabeau, là-dessus, bing sur le narcissisme, hein, pour le saint, ça, c'est vraiment la thèse de Lacan, et la castration de l'escabeau s'accomplit par l'escapade. L'escapade, c'est exactement, on est dans la voie canonique, mais un peu à côté. Une escapade, c'est sortir quand même de la grande route, hein, si on reprend de vieilles images de Lacan, et passer un petit peu à côté. Donc il y a cette idée-là, c'est que l'escapade du saint, c'est la même chose pour le psychanalyste. C'est la même chose pour le psychanalyste, d'une certaine façon, une escapade à l'écart, comme on n'a pas de voie canonique dans la psychanalyse. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas de voie canonique dans la psychanalyse. Il n'existe pas la voie canonique. L'équivalent de la voie canonique, qu'est-ce que ce serait dans la psychanalyse? La structure. La structure, peut-être, ce qui s'impose à tous. Peut-être, oui, on pourrait dire ça, sans doute, mais... Bon, voilà, donc je voulais citer ça, une voie qui se réfère à la grande voie canonique et qui fait des fioritures autour. C'est d'ailleurs bien comme ça que le tourment de l'Église face à la vie de ces sujets-là qui ont eu des itinéraires très spéciaux, c'est de savoir si on les canonise. Savoir si on les canonise, c'est-à-dire si on dit oui, ils sont restés dans la grande voie, ils l'ont même illustré spécialement, ou si on dit ah non, c'est des hérétiques.
Mais il y a toujours le oui, hein, excommunication ou canonisation.
Voilà, c'est ça, oui. Alors aussi, une dernière remarque, vous n'avez pas dit un mot sur la sortie du discours capitaliste.
On n'a pas été
un petit détail, qui n'est pas un petit détail.
On a parlé que de ça.
Peut-être qu'en même temps, j'en étais soulagée parce que on en a tellement parlé de ça que.
Mais ça revient peut-être à ce que oui à cette histoire de voie canonique, hein, parce que la voie canonique du moment, c'est peut-être la voie capitaliste. Et alors, il y a peut-être des tentatives d'escapade, mais qui ne changeront pas la voie canonique si c'est juste l'escapade de quelques-uns. Alors, c'est rigolo, quoi, on se marre bien le temps de l'escapade. Je ne sais pas si on peut faire comme ça la fin du passage.
Est-ce que vous n'êtes pas frappé? Évidemment, il parle du saint. Le saint, c'est quasiment le concept du saint. Hein. L'analyse, ouais. Pareil. Comme ça diffère des analystes, comme ça ne ressemble pas aux analystes que l'on connaît.
C'est-à-dire qu'il parle de l'analyste au moment où il opère. Donc, en fait, même nous, analystes, on ne voit pas les autres analystes au moment où ils opèrent. Donc, on ne les voit pas. Donc, effectivement, on voit les analystes quand ils ne sont pas dans cette fonction-là. Donc, effectivement, bon, bah, ils sont comme ils sont et comme on est. Mais oui, il parle d'une fonction. Je pense qu'il essaie d'approcher une fonction, ce qui donne une idée un peu désincarnée, enfin, peut-être, à ces quelques lignes.
Oui. Oui, vous avez raison, mais ça ne répond pas à
la question. Alors, je crois que... Ah, oh, pardon, il y a des questions.
Radu et Marc.
J'attendais la réponse de Frédéric à ma question.
Ah, pardon.
Oui, seul.
L'ignorance que suscite le saint.
L'ignorance passe par le côté exemplaire. Hein. Quand on lit, encore que ce ne soit pas ma lecture favorite, hein, mais quand on lit des vies de saints écrites pour l'édification du plus grand nombre.
C'est les livres de la voie canonique, ça, ce n'est pas le livre des saints.
Non, bien sûr. C'est la reprise du saint par la voie canonique ou dans la voie canonique. Et ça ça a un effet d'obturation de la particularité du saint. Donc c'est là que je vois, que je localise le pouce à l'ignorance. Hein. Comme s'il suffisait d'imiter justement les éclats extérieurs dont sont quand même parsemés en général les saints dont on raconte la vie. Pour appréhender l'expérience elle-même.
Je peux, Frédéric ?
Oui, bien sûr.
Juste une observation technique d'abord. Je crois que pour ceux qui posent une question, après la question, il faut couper le micro parce que sinon ça devient un dialogue avec les mêmes personnes, tu vois.
Mm-hmm. Alors, c'est pas nous qui...
Non, mais c'est Frédéric qui peut... il faut laisser la place à d'autres questions, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui posent des questions, tu vois.
Et pas beaucoup de questions.
D'abord, les questions...
Après moi, j'ai une question à vous poser...
en tant que tu n'es pas toujours le même.
Mais moi, j'ai levé la main. Hein.
Mais bien sûr, oui, tout le monde a levé la main, Radu. Je crois que c'est Patrick qui vient les micros.
Aussi de nos réunions par Zoom. C'est surtout sur le statut d'un texte de Lacan comme télévision, quand même. C'est assez particulier. Hein. C'est. Oui, on le lit ligne par ligne. C'est entre écrit et écriture. Hein. Il y a quelque chose où on se dit, mais enfin, quelle interprétation est la bonne? Et on sait bien qu'on ne connaît pas, enfin, on n'est pas du côté de Ricoeur, hein, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'interprétations. Mais en même temps, on voit bien qu'on n'est pas toujours d'accord sur l'interprétation. Et donc, sur le saint et l'analyste, est-ce qu'on peut trancher? Est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est ça? Voilà ma question pour vous deux. Et pour Colette?
Trancher quoi? Non, mais précise ta question. Est-ce qu'on peut trancher entre quoi et quoi?
Est-ce qu'on peut trancher dans, est-ce que Lacan, quand il dit, voilà, le saint est l'analyste, Balthazar, il est un saint, c'est-à-dire, on lit un texte quand même.
Oui.
Oui. Mais c'est... c'est pas rien de le préciser qu'on lit un texte et qu'on donne une interprétation.
En tout cas, c'est un saint quand même, l'analyste comme saint, c'est un saint quand même très particulier.
Non, mais l'analyste, justement, il fait pas le jeu des interprétations multiples. C'est-à-dire, on peut pas dire tout et n'importe quoi sur un texte.
Eh bien oui, et donc on lit cette phrase-là, on ne saurait mieux le situer, l'analyste, que de ce qui, dans le passé, s'est appelé un saint. Alors, il ne dit pas l'analyste est un saint.
Non.
Il dit on peut le situer. C'est une homologie. Là, il n'y a pas d'interprétation à faire. C'est une homologie
entre le saint
et l'analyste.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette homologie?
Voilà. Après, on essaye d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
Voilà.
Oui.
Marc a demandé la parole.
Oui, moi je vais changer un petit peu de plan, si vous permettez. Bon, alors Balthazar Gracian, on est d'accord, c'est une interprétation de Lacan. Je ne sais pas si le Vatican serait d'accord. C'est donc une nouvelle forme de saint qui n'a pas été aperçue comme telle par l'Église. Et donc ma question, c'est celle sur ça, l'apparition de ce type de saint inaperçu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie au XVIIe siècle, c'est une question sur l'histoire du discours, des discours, qu'est-ce qui justifie l'apparition au début du XVIIe siècle d'un manuel des bonnes manières? Et pas des bonnes manières de la machine princesse, je ne sais pas quoi, de Rothschild. Ce n'est pas les bonnes manières comportementales, c'est les bonnes manières discursives. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il faut l'écrire? C'est parce que, si j'ai bien compris, c'est le premier modèle du genre. Si vous avez une idée là-dessus, et j'ai trouvé frappante de ce point de vue-là, l'écho de Molière, qui est aussi finalement une façon de dénoncer ce qui fonctionnait avant très bien, sans que personne ne sache. Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, toujours sur le même plan, qu'est-ce qui, à votre avis, chatouillait Balthazar Gracian lui-même de vouloir se faire l'écrivain du manuel des bonnes manières discursives?
Alors, oui, c'est une époque. Bon, alors moi, je ne suis pas une historienne des religions, donc ma réponse va être un peu courte, mais quand même, c'est une époque de haine religieuse. C'est quand même une époque. Donc, Balthazar Gracian, il propose quand même l'art de la rhétorique. Donc, on va pas tous s'entretuer. Enfin bon, c'est quand même une période qui est très très chaude, entre guillemets, sur les haines confessionnelles. Je pense qu'effectivement, il y a une nécessité peut-être dans cette époque-là de revenir à ce qui pourrait être un art de la conversation. Et d'ailleurs,
si je peux intervenir, Natacha, après…
Ah, ouais. Pardon.
Non, mais après, quand tu as dit...
D'ailleurs, son dernier livre, c'est deux hommes, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est un qui figure la critique et l'autre qui figure l'innocence, enfin, ou la nature, quelque chose comme ça. C'est deux hommes qui cheminent en Europe et qui discutent tous les deux, qui méditent, qui ont des réflexions. Donc, c'est quand même un art, justement... avec deux figures contraires, deux figures qui pourraient être conflictuelles, en faire une figure du voyage, de l'échange,
alors,
de la conversation.
Alors, justement, à ce propos-là, excuse-moi Radu, j'interviens, mais une seule fois, les jésuites sont ceux qui ont découvert le bouddhisme au début du XVIe siècle. Est-ce qu'il y a là une influence bouddhiste dans cette façon de d'épouser la voie du discours sans y être tout à fait?
Je crois qu'il y a une personne qu'il ne faut pas que nous oublions, hein, qui a levé la main aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'enjeu. Enfin, il me semble, hein, tu posais une question sur le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est le siècle des centralismes. Et c'est le siècle de l'étatisation, si on veut. Et l'Église, en tant qu'entité étatique, si je me permets d'employer ce terme, elle a des difficultés. Elle commence à avoir des difficultés devant l'émergence de puissances étatiques qui vont la contester, en fait. Pas forcément au plan de la foi, enfin, c'est toute la question, mais au plan de l'étendue et du poids politique. Et c'est quand même pas pour rien que Colette est absolument scandaleuse. Enfin, pas du tout d'accord.
Mais c'est pas au XVIIe siècle, ça. C'est un peu plus tard, un peu plus tard.
Ah, ça commence au XVIIe siècle, il me semble, avec d'un côté la cour d'Espagne, Louis XIV et tout ça. Et d'ailleurs, le Balthazar Gracienne, il est en position d'être le confesseur du vice-roi. Enfin, bon, il est quand même, c'est l'immixtion de l'Église avec quelque chose qui commence à s'appeler l'État. Enfin, il me semble. Mais c'est très superficiel, hein, je sais bien en même temps. Il y a une question de Maria Velisaropoulos.
Oui, j'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'on ne peut pas me voir ici parce que je suis très loin, près à la mer. Et si j'ouvre mon... et si on me voit, on n'entend plus ma voix.
Vous ne voulez pas qu'on voit la mer, quoi.
Vous êtes dissimulé.
Je me dissimule. Non, non, mais...
Mais un maillot de bain sur la plage.
C'est tellement... Non, non, il y a tellement peu de vitesse que ça coupe tout ici, parce que je suis vraiment à 20 mètres de la mer, et voilà. Donc, non, j'avais une question par rapport à ce qui m'a toujours posé un problème quant à cette histoire de décharité du côté de l'analyste. Alors, est-ce que c'est du côté de l'analyste, ou justement, est-ce que c'est à partir de là où arrive à un moment l'analysant, ou... il arrive à déshabiller l'analyste, il devient objet petit à petit. Avant, il a plein d'oripeaux, c'est un objet cause qui est habillé d'un tas d'oripeaux petit à petit. Et entre autres, les quatre, par exemple, les quatre objets de la pulsion et tout ça, tout ça. Mais il n'est plus ça. Je me souviens de gens qui ont fait un travail de supervision avec moi, qui me disaient qu'est-ce que ça veut dire quand je dois être à la place de l'objet petit a que je suis, je dois être l'objet voix, ça, etc., les quatre objets de la pulsion. Ça, c'est des habits de l'objet petit a. Alors, à un moment, ça se déshabille, et peut-être que c'est comme ça que ça devient l'analyste a à pouvoir supporter aussi de ne plus être, de ne pas se prendre pour être la cause. Il n'est pas sujet, il est objet. Enfin, c'était un peu ça, ma question. Et la deuxième qui allait tout à fait avec ce que Natacha, vous avez dit au début, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Tartuffe avec... la simulation, tout ça. Or, justement, le semblant, c'est cette différence qu'il y a entre la simulation, le paraître, et ce que c'est que le semblant. Par exemple, en grec, nous avons beaucoup de mal à traduire ce semblant pour ne pas le traduire, pour faire la différence entre le semblant et le faire semblant. Alors, voilà, une question de ce déshabillage dans son rapport avec le décharité.
Je suis un peu gênée, moi, d'employer le mot habit pour l'objet A. C'est plutôt je dirais plutôt des substances que des habits. Enfin, et en plus de ça, je suis un peu perturbée parce que il y a en fait finalement beaucoup question d'habits, d'une certaine façon, dans Tartuffe. Dans Saint François d'Assise, qui se déshabille. Parce que Tartuffe, il a la première version de la pièce, qui a été censurée immédiatement. Elle a été jouée une fois, hop, elle a été censurée. Donc, Molière a réécrit pour que ça passe la censure. Donc, la version qu'on connaît maintenant, je pense, c'est la deuxième version. Enfin, bon, il faudrait vérifier si la première version est jouée, je ne sais pas. En tout cas, dans la première version, il avait habillé, pour le coup, Tartuffe, avec les habits de l'homme dévot, de l'homme d'église, avec un espèce de petit costume noir d'homme d'église. Donc, comme il a été censuré, dans la deuxième version, il n'est plus habillé de la même façon, Tartuffe. Il est habillé en homme du monde, en petit mondain. C'est intéressant quand même qu'il change l'habit. C'est un petit détail qui m'a intriguée. Mais pour ce qui est de l'analyste, je ne sais pas si l'analyste se déshabille ou si c'est l'analysant qui se déshabille, parce que c'est plutôt l'analysant, les pelures d'oignons, d'identification.
Excusez-moi, c'est pour ça que je garde le micro ouvert, parce que justement, ce n'est pas l'analyste en tant que sujet, c'est la place de l'analyste. C'est cet objet A. Il est agent, mais pas sujet. Il est agent en tant qu'objet A. Et cet objet A, oui, ce que vous venez de dire de la pelure d'oignon, qui se fait au fur et à mesure.
Oui, la pelure d'oignon, je le vois plutôt du côté de l'analysant, qui se défait de son identification.
L'analysant qui le déshabille.
Et alors, ça me fait penser d'ailleurs une petite notation clinique, hein, qui, je ne sais pas si ça... Des analysants qui, dans certains virages de cure, changent de façon de s'habiller. Ils ne s'habillent plus de la même façon. Et ça, c'est un signe clinique qui est assez intéressant.
Demandez la parole.
Oui.
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 Je voudrais juste faire remarquer quand même que il faut voir ce passage après quoi il vient.
Oui.
Il vient après les remarques sur la place de Lacan dans la société analytique, sur la SAMCDA, et tout ce qu'il a dit sur les analystes, les analystes qui ne le suivent pas au fond, qui a été discuté la dernière fois. Et donc, ça vient dans la suite, et ça explique pourquoi il dit, il se pose la question, alors finalement, comment situer l'analyste? C'est autrement qu'en disant d'un bord ou de l'autre, de l'IPA ou de ce côté-ci, etc. Et c'est pour ça qu'il cherche cette homologie avec le saint. Moi, je ne suis pas totalement convaincue par votre référence à Tartuffe. Bien sûr qu'on a affaire avec le Tartuffe de Molière à quelqu'un qui se moque de l'hypocrisie des catholiques. Ça va de soi. Mais je ne vois aucun texte de Lacan, pourtant il a dit beaucoup de mal des analystes, aucun texte de Lacan où il le rapproche de Tartuffe.
Ah, mais
le pire qu'il en ait dit, tout à la fin, en 77, et encore, il ne parle pas de l'analyste, il parle de l'analyse. Hein, quand il dit, comment c'est l'expression j'arrive plus à trouver l'expression de la conférence de 77 où il critique les analystes pour leur boniment et leur
escroquerie,
qui n'est pas du tout la tartufferie.
Non.
Ouais. Et donc, je ne suis pas du tout convaincue par...
Oui, mais alors je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense. Ce qui m'a intéressée dans Tartuffe, c'est que justement... C'était l'idée de la dissimulation. Et je voulais mettre ça, mettre en valeur la simulation, en essayant de comparer et de dire que ce n'était pas la même opération du côté de Tartuffe et du côté de Balthazar Gracian. Et, alors bon, je l'ai dit, mais rapidement, mais c'est pas possible que, d'une certaine façon, je suis partie sur cette idée, est-ce qu'on peut confondre l'analyste avec un Tartuffe ? C'est une question qui m'a fait travailler, mais je pense que ce n'est pas possible parce que dans la pièce de Molière, ce qui est important, c'est que Tartuffe, en fait, il est Tartuffe du fait de la mise en scène, c'est-à-dire du fait d'un grand autre, c'est-à-dire de l'auteur. C'est l'auteur de lui-même, il ne pourrait pas l'être, il serait dans la simulation. Mais comme il y a deux actes qui précèdent, que tout le public en fait est prévenu de sa tartufferie, donc c'est bien la double énonciation du théâtre, mais le fait que l'auteur en fait là, Tartuffe, il n'est pas tout seul sur scène en fait, il est précédé d'un discours.
Le fait que ce qu'il dissimule, ce qui cache, ce qu'il tente de cacher, même si la mise en scène nous le fait apparaître. Ce qu'il tente de couvrir, c'est absolument ses intérêts narcissiques.
Oui.
Moi, je voulais juste, vous m'entendez, je voulais juste revenir sur le statut de ce texte de Lacan Télévision. Ah. Quand même, c'est une mise en scène, hein. Télévision, oui. Et voilà, c'est une mise en scène. C'était, voilà. Et donc, le statut. Au-delà de la mise en scène, hein, qu'on connaît un peu comment ça s'est fait, comment le statut du texte et des interprétations qu'on peut en faire, je crois que souvent, quand on accuse les Lacaniens d'être un secte, c'est par rapport à l'interprétation qu'on donne de ce type de texte de Lacan. Enfin, on lit un truc et on voilà, même ce soir, vous avez vu, hein, on a plusieurs interprétations.
Ouais.
Comment on s'en sort? C'est ça ma question.
Mais comment on se sort de quel problème? D'être une secte, de télévision, de dire Lacan?
Moi j'ai mon avis sur les sectes, mais sur l'interprétation du texte de Lacan.
C'est un texte qu'il a écrit.
C'est un texte qu'il a écrit, c'est pour ça que je dis…
Il a lu.
C'est un jeu entre écrit et écriture, parce que quand on lit le texte télévision mot par mot, enfin, ça a un effet, voilà, on lit des écritures.
Ben oui, tous les textes écrits de Lacan, il faut les lire mot à mot. Quand on lit une écriture, il faut lire mot à mot, sinon on ne lit pas.
Tout à fait.
On glose.
Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on peut transmettre
de ce que tu veux dire.
Hein?
Ben... Oui, j'ai du mal moi aussi, mais en plus il va falloir qu'on s'arrête là-dessus, mais j'ai un peu du mal à saisir la question de Radu, mais peut-être ce que je pourrais dire moi, c'est que dans cette question d'interprétation, ce qui est quand même absolument, enfin ce qui moi m'a beaucoup intéressé, et je crois que Natacha sera d'accord avec ça, c'est qu'on découvre non pas une univocité ou une vérité du texte de télévision, mais on découvre la surdétermination de chacun de ces membres de phrase et tout ça. Et ça, c'est quand même très intéressant et c'est ce que disait Natacha en commençant avec sa métaphore de l'accordéon. Dont je lui sais bien gré, moi, personnellement. Hein? Tu vois?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. La surdétermination, ce n'est pas plusieurs interprétations. Moi, je n'ai pas entendu plusieurs interprétations aujourd'hui, à aucun moment. Mais effectivement, un texte où il y a des strates de lecture possibles.
Oui, moi j'avais proposé cette métaphore de l'accordéon parce que ça m'a fait cet effet quand j'ai lu ce passage de télévision, je me suis dit non mais qu'est-ce que... dans quoi je me suis fourrée. Et j'avais l'impression que c'est un texte qu'on peut déplier, refermer. Et j'aimais bien cette idée que je pense qu'en une soirée, même un passage, c'est-à-dire que ce n'est pas toute télévision, hein, c'est qu'un passage, on n'arrive pas à le déplier complètement. Donc on reste avec des respirations et puis des fermetures dans cette lecture. Et ça, je trouve que c'est. Alors ça. C'est intéressant parce que du coup, on a envie d'y revenir et peut-être d'ouvrir un autre soufflet et de refermer un autre parce qu'on ne peut pas ouvrir tous les soufflets en même temps, enfin quelque chose comme ça.
À quoi ça sert pour la pratique psychanalytique ? Ce n'est pas la querelle des interprétations. C'est...
D'accord.
Ben oui, ah, oui.
C'est un texte sur l'orientation éthique. Ce n'est pas un texte sur la pratique. Aussi, encore que faire le déchet,
c'est très pratique.
Oui.
Décharité, quand même, c'est une indication clinique.
Oui.
Moi, je pense que cet exercice d'accordéon et nous invite à quelque chose qui est très utile pour la pratique analytique, qui est le contraire de l'interprétation et qui est cette forme de mobilité et de souplesse qu'on peut trouver à chaque instant dans le texte de Lacan et qui, je crois, est très hygiénique pour nous dans la pratique. Enfin, c'est comme ça que je répondrai à la question de Radu en ajoutant qu'il va vraiment falloir qu'on s'arrête, je pense. Natacha, tu voudrais...
Ah oui, moi je suis d'accord pour qu'on s'arrête.
Pour qu'on s'arrête. D'accord.
Bah, bonne fête. C'est d'actualité. Hein. Bonne fin d'année.
Bonne fête à tous.
À l'année prochaine.
Et merci d'avoir été assez nombreux ce soir. J'espère que la petite musique de l'accordéon...
Nous suivra.
Vous suivra, voilà. Jusqu'à la prochaine séance l'an prochain. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.